Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 au sein de Génération Sport, une émission 100% sport que vous pouvez réécouter en podcast à toute heure de la journée, que ce soit le matin en allumant le grille-pain, le midi lors du repas ou le soir dans la voiture en podcast sur le site de Radio G. Comme chaque semaine, l'équipe de choc est présente et quasiment au complet. Cédric, notre spécialiste des tatamis et des circuits de F1, n'est pas présent. Nous le saluons à distance. Par contre, l'homme victorieux d'Avrier est bien là, le spécialiste NBA. Bonsoir Faustin, comment vas-tu ?
Bonsoir Florian, première fois que tu m'as introduit en victorieux et cette fois c'est une défaite. Ce week-end, défaite de 6 points, quelque chose comme ça. Alors qu'on gagnait 10 points à la fin du premier quart-temps, terrible.
Je t'ai même pas demandé en off, parce que je voulais vraiment te faire la surprise de t'annoncer victorieux, et malheureusement, c'est une défaite.
Ouais, malheureusement, pas de tournoi pour la région pour nous cette saison.
Bon, on se rattrapera en championnat.
Voilà. Coup. Championnat et coupe, on va chercher le doublé.
On va parler basket avec toi dans quelques instants pour l'actu du 49. L'homme qui suit l'Euro féminin de hand avec attention et bien présent également. Bonsoir, Amaury.
Et bonsoir Flo, et bah moi comme Faustin, une belle défaite ce week-end, un dimanche à 16h près de Nantes, ça fait mal, mais bon, on s'est rattrapé dimanche soir avec un match de foot qui m'a fait bien plaisir, et 7 euros de hand qu'on suit évidemment, et un très très bon début de tournoi des Françaises, on en reparlera peut-être en fin d'émission.
Évidemment, on trouvera forcément un petit moment pour parler de nos handballeuses françaises. Le trio magique ne serait pas au complet sans la présence de notre spécialiste foot, le scout de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Flo, bonsoir à tous. Et ben moi ça va très très bien, écoute, toujours pas de club. Malheureusement, c'est vrai que je suis sur le marché des transferts, on peut dire, mais peut-être que je vais en trouver un ce soir dans le baseball.
On sait jamais.
J'ai introduit un peu nos invités.
Exactement. Au sommaire de cette émission, les infos locales, bien évidemment, avec du basket, du volley, du foot, du tennis notamment. Vous aurez quelques infos internationales en fin d'émission, mais la majeure partie de cette émission sera réservée à nos deux invités du jour. Édouard Gay, président du club des Eagles de Saint-Barthélemy-d'Anjou, et Ludovic Clermont, joueur au sein du club. Bonsoir et bienvenue messieurs, vous êtes ici, chez vous.
Bonsoir, merci de nous accueillir dans vos studios.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous, merci à toi de nous accueillir.
Eh bien ça fait plaisir de vous accueillir, on va évoquer l'actu du club, mais aussi et pas seulement aussi la visibilité du baseball en France notamment, et pas seulement. Mais avant toute chose, on va commencer avec l'actu du 49, et avant de nous lancer sur le field des Eagles, nous allons donc parler basket avec toi, Faustin, et avec une équipe de Cholet que l'on n'arrête plus.
Bah ouais, c'est incroyable ce qu'ils nous font en ce début de saison avec là une nouvelle victoire en Betclic Elite contre Chalon, 88-74. Il reste une semaine de plus seul en tête du classement de première ligue professionnelle française. C'est incroyable, ils nous font rêver toutes les semaines. J'adore en parler en bien de Cholet. C'était pas arrivé autant aussi longtemps ces dernières années. À chaque fois, il y avait une cassure à la fin, environ au milieu de la saison. Espérons que ce soit pas le cas cette année.
Ouais, on va croiser les doigts pour que 2024 continue vers cette même acabit et que 2025 continue aussi là-dessus, parce que vraiment, on espère pouvoir commenter de Cholet jusqu'à la fin de l'année, peut-être pour un titre. On sait jamais.
On sait jamais.
Vu comme c'est parti, ça joue très très bien au basket en tout cas.
Monaco est en changement de coach, l'ASVEL a changé pas mal dans son effectif. Il y a quelque chose à jouer.
Il y a une place à prendre pour Cholet Basket. Belle victoire aussi également pour l'UFAB du côté de Landerneau.
Ouais, victoire 66 à 49, une grosse victoire qui leur permet à elle aussi de retrouver la première place du classement à égalité avec Bourget et Charnay. Même chose, un excellent début de saison, deux petites défaites seulement, mais franchement rien d'alarmant. C'est le meilleur début de saison, je pense, de l'histoire de l'UFAB en première ligue féminine. Et ça fait pareil chaud au cœur et ça fait beaucoup de bien à voir avec. Et lui aussi un gros mouvement dans l'effectif cet été.
Ouais, tu le disais parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros renouveau et on s'attendait pas forcément à ce genre de départ. Et aussi, on rappelle, tu dis deux défaites, mais deux défaites face à quand même deux grosses équipes du championnat, notamment Land Basket qui est quand même vraiment une équipe qui tire le championnat vers le haut et le basket français vers le haut. Défaite pour l'EAB par contre à Fougères.
Ouais, 89 à 83, une de plus, j'ai envie de dire, on les compte plus. Mais heureusement pour eux, les équipes derrière eux au classement ne gagnent pas non plus. Donc ils restent avant-dernier. Mais ils sont loin de gagner des places aussi, parce que devant eux, ça gagne. On commence à avoir une petite fissure au niveau du classement entre ces trois équipes en marge en bas du classement.
Il va falloir vite se ressaisir pour l'EAB. On espère pouvoir avoir un électrochoc dans les prochains matchs. En volée, le SCO masculin donc a été défait à domicile face à Rosé 3-7-1 malgré le gain du premier set. Angers est 9e et par contre les filles juste avant à 13h elles se sont imposées contre l'équipe 2 de Rennes 3-7-0. Angers est 3e, on rappelle que chez les filles le SCO est donc promu. Donc ça reste une très très belle performance pour les joueuses du SCO. Volley en foot, les U19 du SCO ont fait 0-0 face à Laval. Les U19 de Beaucouzé ont fait 4-4 contre Lorient après avoir été menés 3-1. Les U17 de Saint-Cyr, du SCO, je veux dire, ont perdu à Saint-Cyr-sur-Loire 4-1. En R1, Beaucouzé s'est incliné à domicile face à Pouzoges 2-1. Il y a eu le tirage de la Coupe de France aussi également. Ça peut plaire à Mathéo et à Amaury avec un déplacement du côté de Bobigny le 22 décembre prochain en clôture de l'année. Qu'est-ce qu'on doit attendre pour le SCO donc en Coupe de France, Mathéo?
On doit forcément attendre une victoire face à ce club. Maintenant, ça reste forcément des ambiances toujours compliquées d'aller vraiment dans ces endroits-là, mais ça reste toujours intéressant de pouvoir voir des matchs avec des équipes qui viennent de Paris, parce que c'est un vivier énorme, c'est peut-être même le vivier principal du football aujourd'hui dans le monde, avec peut-être Buenos Aires donc concrètement je pense que ça va être un match très intéressant, très pertinent, que le SCO doit gagner, mais attention au match piège, Flo.
Amaury, est-ce que tu as un point de vue sur ce match de Coupe de France à venir pour les SCOistes?
Non, c'est un grand écart de division, donc évidemment le SCO doit aller gagner ce match-là. Normalement, ça devrait le faire. Maintenant, mon club que je supporte a souvent eu des petits accros sur ce genre de match, donc jamais sous-estimé. Maintenant, il faudra faire ce qu'il faut dès le début du match. Et ça
attention
devrait bien se passer.
Au boulanger-pâtissier.
Voilà. Je sais pas s'il y en a à Bobigny, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faudra se méfier donc de ce match à l'extérieur en région parisienne. Par contre, on va rester sur le football avec la victoire du SCO du côté du Havre, 1-0, un but d'Imad Abdelli aux alentours de la 66e minute de mémoire. Est-ce que tu as vu ce match?
Oui, bien sûr que je l'ai vu, bien sûr que je l'ai vu. Match ultra intéressant du SCO, donc qui jouait en même temps que mon Olympique Lyonnais, donc j'ai regardé un petit peu avec deux écrans, c'était assez marrant. Voilà, très belle victoire du SCO encore. On a de la continuité, notamment sur les nouveaux joueurs qui ont été introduits dans l'effectif. Donc je pense forcément à Bamba qui revient. On en avait déjà parlé, qui joue sobre pour un ancien, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a eu des super performances de joueurs qui étaient un peu en dessous sur les dernières rencontres. Donc notamment Abdelli qui est buteur, qui fait vraiment un match super. Aussi El Melali qui s'est moins perdu dans ses dribbles. J'entendais justement le commentateur de DAZN dire que c'était l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Je n'irai pas jusque là, mais en tout cas c'est intéressant de voir la reconsidération médiatique qu'on donne à Farid El Melali. Donc il y a de la continuité. Bamba Dieng a été intéressant. Maintenant c'était sa première titularisation depuis 2 mois, je crois, depuis début octobre. Donc il faut laisser aussi les joueurs s'habituer à leur nouveau rôle. En tout cas, battre le Havre, c'était important. Aujourd'hui, le SCO est 14e de Ligue 1. Avant d'affronter l'Olympique Lyonnais, c'est un bon bol d'air.
Tu le disais, ils vont affronter ton Olympique Lyonnais la semaine prochaine. Donc à domicile, avoir de jouer Rennes et puis Bobigny. C'est une fin de saison un peu compliquée avec des objectifs pour le SCO. Et vous en parlerez forcément la semaine prochaine dans l'émission au sein de Génération Sport. On va parler tennis quand même avec l'Open Inarté de Angers-Loire qui se déroule actuellement du côté donc de l'Arène Loire de Trélazé. Une journée difficile pour nos Françaises avec des défaites. Celle de Sarah Kakarevic, Selena Yanisevic et Jessica Ponce qui ont perdu, qui se sont inclinés donc dans lors du 32e de finale donc de cette Open in Arte. Clara Burel, la tenante du titre, s'est imposée il y a quelques instants, donc elle est qualifiée pour le prochain match demain avec les entrées de Océane Dodin notamment qui vont jouer demain, et aussi également la coqueluche de l'Open qui s'est qualifiée hier en sortant la tête de série numéro 2, c'est Carole Monet, âgée de 23 ans, et donc on suivra forcément ses performances au sein de l'émission. On va passer maintenant à l'interview. On reçoit ce soir donc les Eagles de Saint-Barthélemy. On va parler baseball, et ça fait vraiment plaisir de parler d'une discipline qu'en France on ne suit pas forcément à plein temps, même si on peut avoir un œil dessus sur notamment sur Beansport.
Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit Flo, on va mêler baseball et Saint-Barthélemy, donc avec les Eagles. Ludovic et Edouard, donc respectivement joueurs et président du club, sont avec nous ce soir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Génération Sport. C'est toujours un plaisir de recevoir du baseball, ou en tout cas des sports moins en vue sur Angers, ou moins connus en tout cas. L'occasion donc pour nous de revenir sur l'histoire du baseball jusqu'à son arrivée en France, aux alentours d'Angers, questionner le rapport à la fiction du sport également, et puis parler du club. Bien sûr, vous êtes là pour ça, et puis parler également de vos parcours. Voilà pour ce petit sommaire. Alors, on a généralement une question pour se mettre dans le bain à Génération Sport. Est-ce que Ludovic, Edouard, vous pouvez nous expliquer les règles et les spécificités de votre sport ?
Alors oui, c'est toujours une question un peu délicate d'expliquer les règles du baseball. Ça paraît un peu compliqué de l'extérieur, mais en fait, c'est assez simple. Il y a deux équipes de 9 joueurs qui s'affrontent. Donc, on passe respectivement en défense puis en attaque. Et en fait, le but, c'est de marquer le plus de points possible. On marque un point quand on fait un tour du terrain, donc ce qu'on appelle les bases, et on change attaque et défense quand il y a 3 éliminés côté attaque. Donc ça, c'est les bases du jeu. Et après, quand on est un peu plus aguerri, on comprend que pour éliminer un joueur, il faut soit attraper la balle de volée, soit toucher le joueur avec la balle dans le gant, ou soit passer la balle sur une base avant que le joueur arrive en courant. Donc ça, c'est les règles basiques.
Nos auditeurs ont peut-être joué à un sport similaire aussi dans leurs années collège ou lycée, c'est la tech forcément, qui est aussi, alors aujourd'hui c'est un peu considéré comme une variante, mais qui est un peu la base historique aussi du baseball, hein. C'est ce que j'ai vu quand je me suis documenté, donc ça date un peu du Moyen-Âge, enfin voilà, c'est tous ces trucs-là. Et donc justement, est-ce qu'on a des similitudes et voilà des choses qui sont totalement différentes entre la tech et le baseball, au-delà même de l'accessoire, enfin de la batte, de l'outil qui est différente.
Alors, je dois avouer que je ne connais pas très bien la tech, mais en fait on a souvent des gens qui viennent essayer le baseball qui nous disent ah ouais, quand j'étais à l'école, au collège, je jouais à la tech, j'adorais ça. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de clubs, souvent les gens ils abandonnent, ils passent au foot, au basket, à d'autres clubs plus classiques. Et en fait, la similitude, c'est vraiment effectivement qu'il faut frapper dans la balle et l'envoyer assez loin, et les défenseurs doivent ramener la balle. Il me semble qu'à la tech, il faut ramener toujours au même joueur, alors qu'au baseball, il y a des stratégies pour éliminer un joueur ou l'autre, celui qui est le plus près du marbre, donc pour marquer le point. Donc il y a des stratégies un peu plus évoluées, mais la base de lancer la balle, la frapper et éventuellement l'attraper reste effectivement la même. Oui.
Tu nous as parlé de personnes qui se dirigeaient plus ensuite vers le foot, le basket en France. Qu'est-ce qui explique un peu pas cette impopularité non plus, hein. Forcément, tout le monde connaît le baseball, mais le fait qu'on ait aussi peu de pratiquants en France comparé à d'autres pays, je pense directement forcément aux États-Unis.
Donc en fait, aux États-Unis, les gens en famille, père, fils, fille, etc., tout le monde joue, parce que c'est un sport qui peut être mixte, les femmes et les hommes. Et dès enfant, on a un gant, une balle, on se la lance dans le jardin, c'est assez rigolo. En France, on n'a pas du tout cette culture-là. Et au final, comme je disais, dans les petites villes, il n'y a pas de terrain de baseball, il n'y a pas de club, et donc c'est très difficile d'accrocher vraiment ça. Donc là, en France, il y a 12 000 licenciés aujourd'hui. Donc c'est assez marginal par rapport à d'autres clubs. Et on a du mal à développer, hein. La fédération essaye de mettre en place des choses. Notamment, il y a le Baseball 5 qui est sorti. Donc c'est un baseball qui joue sans gants, sans batte. Donc on peut jouer un peu partout. Et il y a eu un bel essor, là. L'équipe de France a eu des bons résultats au niveau mondial. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait développé.
Vous n'avez pas de branche Baseball à 5 chez vous ?
Si, on a un licencié Baseball 5. Et ça nous permet quand même de faire des démonstrations dans les écoles. La Fédération Pays de la Loire a acheté un terrain, donc on peut se le faire prêter pour faire des démonstrations. Après, nous, comme on est un petit club, on est beaucoup baseball, un peu softball. Et Baseball 5, on va voir si on peut le développer cette année, l'année prochaine. C'est une ouverture, c'est une possibilité.
softball, on va pouvoir en reparler. Mais juste avant, Ludovic, moi, je voulais avoir ta vision justement du traitement du baseball en France. Qu'est-ce que t'en penses justement du fait que, bah, comme on l'a dit, il y a que 12 000 licenciés par rapport à la popularité du sport, en tout cas, bah voilà, un sport que tout le monde connaît.
Je pense que les raisons sont multiples, les facteurs sont existent. Et je pense que d'une manière générale, ça va être juste simplement la volonté des instances sportives du pays de faire vivre un sport dans un pays. Il y a énormément de sports, hein, il faut bien choisir. Qu'est-ce qui peut expliquer autrement le fait que le baseball soit moins populaire que d'autres sports ou simplement attire moins la curiosité des gens? Ça peut être juste simplement ça. C'est un sport qui est pas suffisamment mis en avant, suffisamment pratiqué par les instances, tout simplement. On a moins l'habitude culturellement, et quand on a des habitudes culturelles, on est plutôt attaché aux sports qui sont plutôt comme ici finalement, le football, le rugby, sont des sports qui sont très développés. On y met les moyens.
Donc, pourtant, on a le même.
Il faut le rendre visible finalement si on veut avoir plus de licenciés.
Pourtant, on a le même attrait pour le collectif dans le baseball que dans le football ou comme dans d'autres sports. Même peut-être en France, le collectif est plus marqué dans le baseball par rapport à des sports comme le foot qui aujourd'hui sont peut-être plus individualistes.
Oui, c'est vrai, peut-être aussi. Mais je pense que chaque sport, après, qui sont des sports d'équipe, vont t'amener à véhiculer certaines valeurs. Et les valeurs de chaque sport peuvent être aussi différentes. On ne va pas voir le judo, par exemple, comme on va voir le rugby ou le football. Les valeurs sont différentes au sein de ces sports-là. Ça va attirer les gens qui partagent ces valeurs-là, finalement. Il faut juste en avoir un petit peu l'habitude et puis après le découvrir. Mais quand on découvre un sport qui soit peu pratiqué par le monde ici, dans le pays ou ailleurs, quand on découvre un sport, on découvre des valeurs, on découvre un état d'esprit d'équipe, bien entendu. Ça va se retrouver dans le baseball.
Il y a peut-être un autre frein, là, c'est le terrain lui-même, parce que pour un terrain de baseball, il faut quand même beaucoup de place. C'est 100 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre. Et en comptant que la balle, elle peut partir un peu à droite à gauche. Donc quand il y a des maisons à côté, quand il y a des parkings, les villes sont pas très chaudes pour mettre ce genre de structure. Les terrains, ils ont aussi un coût d'entretien, de mise en place. Et c'est vrai que il y a pas beaucoup de terrains dignes de ce nom en fait en France. Parce que pour avoir des terrains, il faudrait qu'il y ait des gens intéressés. Pour avoir des gens intéressés, il faut des terrains. Donc c'est un peu un cercle un peu vicieux. Là où on a loupé le coche un peu cette année, c'est les Jeux Olympiques, puisque le baseball était sur les rangs pour intégrer les sports olympiques en France. Et finalement, il y a d'autres sports qui ont été préférés, sûrement à juste titre. Et donc là, on a manqué un peu de visibilité là-dessus. Je fais pas mal de réunions à la mairie où tous les sports, on a trop de monde, on refuse du monde, que ce soit au rugby, au basket, à la danse, etc. Parce qu'on a vu des gens à la télé. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu cet essor-là.
Et est-ce que dans ce sens-là, vous attendez pas avec impatience aussi les prochains JO qui sont à Los Angeles? Donc forcément, ça aura sans doute un impact aussi sur vous et votre club.
Ouais, donc il y a eu le baseball à Tokyo il y a 4 ans. Il y a 4 ans aux JO. Il y aura le baseball à Los Angeles. Alors le seul truc, c'est que Los Angeles sera sûrement la nuit. Et les gens, je suis pas sûr qu'ils se lèvent beaucoup la nuit pour voir du baseball. Alors c'est possible, hein. Il y aura peut-être des retransmissions, etc. On l'espère. Mais c'est vrai que médiatiquement, on l'a dit, des fois vous tombez sur du baseball à la télé, donc par exemple sur beIN Sports, mais faut quand même accrocher un petit peu pour pouvoir suivre les règles, etc. C'est aussi la difficulté qu'on peut avoir.
On aura une équipe de France au JO ou pas?
Alors ça, c'est une bonne question. L'équipe de France, elle a un niveau européen. Après, il y a 2-3 équipes qui sont meilleures que nous au niveau européen, donc il y a l'Italie et puis les Pays-Bas. On a du mal à les challenger, ce qui fait qu'il y aura peut-être pas de place pour la France au JO, mais c'est forcément un objectif pour les équipes de France.
En parlant JO nationalité, moi j'avais une question. On a une sorte de d'éclectisme un peu de pays où on joue vraiment beaucoup au baseball. Donc déjà on a le Japon. C'est intéressant de savoir que ça s'est exporté jusque là-bas, mais on a aussi des pays comme la Colombie, le Nicaragua. Enfin voilà, on a pas mal de pays dans le monde aujourd'hui qui sont vraiment des fervents pratiquants de baseball sans forcément à première vue être un pays connecté en tout cas au sport américain. Donc comment est-ce que vous expliquez aussi le fait que le baseball s'exporte un peu comme ça à vue d'œil de manière aléatoire?
J'ai envie de dire que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, le baseball est né avec la tech et probablement en Europe quelque part à un moment donné ou un autre. Quand tu y penses bien, je veux dire, les États-Unis ont dit c'est un sport américain. Les Américains, comme on les connaît aujourd'hui, leur histoire a 400 ans. Ils ont certainement pas inventé grand-chose. Ils ont importé, par contre, quelque chose. Ils ont pris l'idée. Ils en ont fait quelque chose qui maintenant est quelque chose, une idée américaine, si tu veux. Mais ils en ont fait quelque chose parce que le peuple, la volonté, appelle ça comme tu veux, à amener ça dans le pays. Puisque finalement, on a aussi les bases ici en Europe. Si ça vient de la tech et que ça a été inventé ici, on pourrait même se demander pourquoi nous, on les a pas avant eux. C'est pas une question de savoir vraiment d'où ça vient, c'est ce que t'en fais. Je pense que les pays, finalement, se développent dans le baseball parce qu'ils ont envie de se développer. Il y a un marché, il y a un public, il y a des choses à faire autour d'une activité comme n'importe quel sport, finalement. Ça dépend si on fait le choix de choisir ce sport-là ou un autre.
Et c'est un sport que vous avez choisi, du coup, le baseball et votre club qui a été fondé en 87, justement. C'est né de quoi? C'est né forcément d'une envie, d'un groupe de copains qui s'est réuni et qui s'est dit on va faire du baseball à Saint-Barthélemy, j'allais dire à Angers, à Saint-Barthélemy.
Donc l'histoire du club, effectivement, démarre en 87, donc c'est une dizaine de copains qui se sont réunis. Mais comme pas mal de clubs finalement en France où les gens bah ils jouent dans une plaine, dans un parc, ils se lancent une balle, ils achètent une batte et puis finalement ils ont voulu construire. Donc c'est quelqu'un qui s'appelait Roger Grimaud qui a fait beaucoup a priori dans la ville de Saint-Barthélemy. Donc moi je suis un peu nouveau dans la ville donc je connais pas trop ce monsieur mais qui est malheureusement décédé maintenant, mais il a fait beaucoup de pour le club au niveau Saint-Barthélemy mais aussi au niveau du département et de la région puisqu'il était président de la région et du département en termes de baseball. Et en fait, ils ont développé ce club, c'est monté jusqu'à une centaine de licenciés dans les années 90. Donc le pic, c'était 94, où il y a eu 111 licenciés. Et puis après, bon, bah, les gens, ils se lassent peut-être aussi un petit peu. Les gens partent vers de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on est, nous, à 35 licenciés. Donc on a une équipe senior, on a une équipe jeune. Donc là, cette année, l'année dernière, il y a eu pas mal de relèves chez les jeunes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, souvent, les clubs sont partis de copains au départ. Et puis après, bah, on essaie d'agréger des gens qui viennent alors d'autres sports. Moi, par exemple, je faisais plutôt du basket avant et je suis venu au baseball parce que bah, je voulais changer un petit peu de sport. Et c'est l'avantage du baseball, c'est que moi, j'ai commencé à 35 ans et j'étais pas trop vieux pour le baseball. Il y a toujours une place pour les gens qui sont un peu plus âgés.
C'est rassurant, du coup.
Il y a vraiment de la place pour tous les profils au baseball. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant comme sport.
Puis, ce qui est intéressant aussi, vous l'avez dit en début d'émission, c'est le fait que ce soit un sport mixte. Ça c'est vraiment un truc super, c'est un point voilà l'égalité en global, je pense que c'est une valeur que vous défendez. Donc c'est super à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette mixité au sein de votre sport?
Ouais, donc en fait c'est aussi la volonté effectivement de la fédération de développer sur cet aspect-là, mais en fait comme il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse force athlétique ou des capacités hors du commun, bah en fait tout le monde est un peu sur le même niveau et donc ça n'empêche pas une femme, un homme de jouer ensemble. Il y a bien sûr des compétitions qui sont unigenrées, ça il n'y a pas de souci, mais on essaie dans le club amateur d'avoir les deux sexes. Bien sûr, il y a le softball qui est des fois un peu un dérivé du baseball qui attire plus les femmes parce que les bases sont plus proches et puis très honnêtement, nous quand on a des femmes, on en a deux, trois. S'il y en a une ou deux qui partent toute seule, c'est plus compliqué. Donc, faut être honnête aussi là-dessus. Donc, s'il y en a qui veulent venir essayer, bah, n'hésitez pas à venir, même à plusieurs copines. Mais il n'y a pas de souci, on est ouvert, il n'y a aucun problème. Et dans tous les clubs de la région, il y a des femmes dans les équipes. On ne fait pas exception.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué pour avoir joué plusieurs fois en France dans différentes équipes, dans différentes régions. Il y a toujours une ou deux femmes dans l'alignement, ça c'est une certitude. J'ai pas forcément vu ça dans les autres sports, mais peut-être que simplement parce qu'il est peu pratiqué qu'on pourra jamais faire une équipe juste de femmes, finalement on les intègre. Et c'est tant mieux, on a besoin de joueurs et de joueuses, nous on a juste besoin de monde sur le terrain qui ont envie d'y être.
Oui bien sûr. Edouard, tu nous as parlé du softball. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur genre les différences? Tu nous as dit que c'était plus simple, c'est aussi dans le nom softball.
Ouais, alors si je vais me faire tuer si je dis que c'est plus simple parce que c'est pas tout à fait le même sport, mais en fait les bases sont plus rapprochées, la balle est plus grosse et le lancer il se fait par en dessous plutôt que par le dessus. Ceci dit, la balle elle peut arriver tout aussi vite au soft qu'au baseball, hein, c'est pas un truc. Et du coup, c'est un peu une variante et qui est beaucoup pratiquée par les femmes. Il y a des équipes 100% féminines en softball, des équipes mixtes. Et c'est vraiment la principale différence, c'est la taille du terrain. Donc ça joue des fois plus vite sur les bases, ce qu'on appelle en infield. C'est aussi le sport qu'on peut plus facilement jouer éventuellement en salle. Donc on en parlait tout à l'heure un peu en off. La période hivernale, c'est un peu compliqué pour nous de jouer à l'extérieur quand il pleut, quand les conditions climatiques s'y prêtent pas. Et donc en salle, ça permet de jouer plus longtemps et donc de garder la forme tout l'hiver pour après ressortir un petit peu au printemps là, pour pouvoir jouer au soleil quand il fait beau.
Tu nous parlais aussi tout à l'heure des hauts et des bas du club. J'ai cru lire qu'il y a une période où vous aviez arrêté justement le softball. Vous avez repris depuis, donc ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un genre de sport qui globalement marche et qui est lié au baseball, qui est un comme on l'a dit, un club, un sport qui a plus ou moins de licenciés en France.
Ouais, donc nous en fait, comme on est 35 licenciés, on n'a pas de salariés, on est que des bénévoles. Et c'est vrai que là, l'année dernière, l'entraîneur principal, il a souhaité arrêter parce que bon, c'était un peu prenant pour lui, etc. Et donc on s'est retrouvé avec pas mal de départs des gens qui faisaient du softball. Et cette année, on a retrouvé deux personnes qui étaient motivées pour reprendre les entraînements. Donc on reprend petit à petit, donc faut relancer un peu la machine là, mais on a bon espoir que l'année prochaine, on ait à nouveau une vraie équipe de softball. Là, on va plutôt faire des ententes, participer à des tournois avec les autres clubs de la région. Donc ça vivote un peu, mais il faut se laisser cette porte ouverte pour accueillir effectivement que ce soit les jeunes, les moins jeunes et un peu tout le monde.
Et d'ailleurs, en parlant de jeunes, de moins jeunes, comment c'est réparti au niveau du club en termes de licenciés ? Est-ce qu'on a plus, justement, c'est plus des jeunes qui sont là ou c'est plus des seniors, des adultes ?
Donc on est là à moitié-moitié. Donc en gros, on a 15 jeunes, donc ça se répartit en U12 et U15. Donc comme son nom l'indique, c'est les moins de 12 ans et moins de 15 ans. Et on a quelques U18, mais ceux qui sont entre en fait 16 et 18 ans, on les intègre directement en seniors. Et donc là, on est une quinzaine de seniors également, hommes et femmes. Donc ça se répartit vraiment moitié-moitié. Et ce qui est bien, parce que les autres années, on avait plutôt que des seniors et on avait du mal à avoir des jeunes. Là, on a un groupe de U15 qui se suit. Ils commencent à prendre un peu goût aussi au match parce qu'on a réussi à leur faire intégrer des championnats. Ils vont aller au championnat Bretagne. Cette année, on va lancer normalement le championnat Pays de la Loire. Donc en fait, au Pays de la Loire, il y a 7 clubs. Et on va essayer de mixer tout ça pour faire 3 équipes. Donc ce sera un petit championnat, mais ça permet quand même aux jeunes d'avoir des matchs régulièrement. Aujourd'hui, on faisait plutôt des plateaux, donc on réunit tous les jeunes de la région, et puis on faisait des matchs amicaux. Donc c'est sympa, mais il n'y a pas le côté compétition qui peut amener les ados à vouloir continuer, à vouloir progresser. Faire que des entraînements, au bout d'un moment, ça lasse probablement un petit peu. Donc là, il y a des gens qui sont motivés au comité, là, au Pays de la Loire, pour lancer ce championnat. Et donc nous, on a 10 joueurs qui vont pouvoir y participer. Et donc on sera en entente, alors c'est pas encore tout à fait décidé, mais on sera en entente pour créer une équipe. Il faut à peu près 14 joueurs, 15 joueurs pour faire une équipe. Parce qu'on est que 9 sur le terrain, mais il peut y avoir des remplacements, il peut y avoir des fois des petites blessures, il peut y avoir des fatigues, etc. Donc pour assurer, il faut quand même être au moins 12-13.
12-13 joueurs donc dans l'équipe pour faire des matchs de championnat. On va faire une petite pause dans l'interview donc des Eagles de Saint-Barthélemy. Et on va te laisser, Faustin, annoncer le titre que je vais devoir désannoncer tout à l'heure, du coup.
Ça va, c'est pas trop compliqué normalement, je pense. Ouais. Écoutez, Le Vent
d'accord,
c'est de bon. Wallace Cleaver, en fit avec Maero.
Oh, bah ça va alors, c'est
ça
bon.
Devrait le faire.
Ça devrait le faire.
Allez, c'est parti.
Ça m'est pas tombé dessus, j'ai patienté. Dieu merci, j'ai la santé, la richesse d'esprit. Je suis à fond comme la vitesse des sprints. Avec l'imam et le prêtre, je parle et j'écoute. Y'a comme un climat de traite qui arrive par les égouts. Moi, un soldat sûr, face à une armée de doutes. Je crois pas en la réincarnation quand le tarp est tout touche. Personne va s'en tirer pépère, ici c'est l'enfer et c'est irrémédiable. Avec des bêtes mystiques, des vampires et des diables. On partira par les flammes, je fais l'échauffement dans le sauna. Quand tu pars rare, que les gens se réfèrent à ton art. On s'en fout, on le calcule même pas. Il est fort, content pour lui, il est mort, paix à son âme. Je m'en fiche de garder un fil, je suis à l'arrache. Je parle pas de ma vie aux gens, je m'en cogne. Je mens comme un garagiste. Dieu merci, j'ai pas commis le pire, j'ai pas connu le manque. Ils m'ont appelé Romaille et ils l'ont écrit comme ils l'entendent. Du coup c'est Romaille, mais sans le I tréma. Ils se séparent, j'ai 12 ans et je le vis très mal. Je suis dehors, je commence à cailler. Faut que je dorme, je commence à bailler. Le premier bus, il est vers 6h. Je rentre, je vois des guignols sur le téléviseur. Je m'en fous de vos affaires bizarres. J'arriverai sans les avertisseurs. Je sais que j'étais beaucoup esquive. Mais maintenant je comprends nos anges. Je devais être côte à côte quand ils écrivaient nos vies respectives. Le vent, le vent, le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre.
deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête. Le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre. Deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête. Tu tues dans les yeux, j'ai croisé ma vie comme si elle pleuvait. Comme si le ciel devait voir le logiciel crever. Le nom de la bande, son sera la plume à épouser le fleuret. Et je me demande les notes que le violoncelle ferait. De là-haut, je regarde l'amas de fleurs que ton passage a semé. Je te jure papa, bientôt on sera tout en haut. Certains cœurs voient tout en noir, le mien croit tout en gros. C'est triste, mais certaines âmes ne sont pas faites pour s'aimer. J'ai fait des rêves de ma fille où je tenais sa tête. J'avais un bout de monde dans le creux de ma main, un petit cœur enflammé. Elle m'a dit donne-moi un mot et je reste. J'ai répondu pars et ne reviens jamais. Les murs, la mort, le requiem. Je sais plus c'est qui m'aime. Dans les mains j'ai le cœur à Teresa, dans le cœur j'ai le gun à Eliem. J'entends jacter le futur, je me demande c'est qui lui-même. Blessé, on a le cœur couleur bleu de méthylène. Futur s'écrit avec deux V, grosse bécane, un bête de peau. Je me couche, j'entends un YZ se lever. Je t'en joie la mer bleutée et un 213 chevaux. Attendez sur l'air de repos, comme si ce rêve venait. Caisse à fond, y'a plus d'essence dans le réservoir. On me tire des balles dans le pied, ça me donne juste l'énergie du désespoir. Le sol embrasse tant de gens morts, REP. Mais les étoiles, elles racontent les histoires. Le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre. Deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête. Le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre. Deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête. Le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre. Deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête. Le vent. La tempête joue les cœurs à la fenêtre. Deux ans. Ça fait longtemps que j'ai plus le cœur à la fête.
Le vent de Wallace Cleaver feat Myro. C'est ça, Faustin?
Exactement.
C'était sur Radio G, dont vous êtes toujours sur le 101.5. Un sport où le vent ne ferait pas forcément bonne chance. Je ne sais pas si le vent serait bénéfique pour le baseball.
Ni sur le terrain, non, effectivement.
Non. Et donc, du coup, on va continuer cette interview des Eagles de Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc, on va continuer à parler baseball avec vous et les garçons et puis avec toute l'émission, du coup.
Yes, carrément. Donc, je vais commencer par le sujet dont Edouard, tu nous as parlé un peu en off. Comme ça, je balance directement le petit truc dont tu avais envie de nous parler directement.
Le scoop.
Exactement, le scoop. C'est le bon mot, je pense. Du comité départemental. Donc voilà, parle-nous-en, Edouard.
Donc effectivement, un petit scoop pour les auditeurs, parce que je viens d'être élu président du comité départemental du 49. Donc c'est un comité, pareil, qui existe depuis très longtemps, qui avait aussi été créé d'ailleurs par Roger Grimaud. Et en fait, l'idée de ce comité, c'est d'essayer de mutualiser les moyens des clubs du département. Donc il y a trois clubs dans le département, il y a les Cosmiques de Saumur, il y a les Royals d'Angers, et puis donc les Eagles de Saint-Barthélemy. Et donc, notamment, il y a dans ce comité une machine à balles. Donc ça paraît rien, mais une machine à balles, ça coûte autour de 3000 euros. Et donc ça permet des fois de faire des événements avec cette machine, de se la prêter. Le but, c'est aussi peut-être d'aller faire des événements mutualisés, puisqu'on a des fois de la peine à trouver des bénévoles. Et donc, quand on peut se mettre à trois clubs, c'est plus facile de réunir 6, 7, 10 personnes pour passer deux jours à parler baseball avec des usagers, avec des gens qui vont dans les magasins de sport, etc. Donc là, c'est un comité qui vit depuis longtemps, mais qui a du mal effectivement à percer, à trouver son rythme. Donc j'ai pas des grosses ambitions dans le baseball, mais l'idée, ça serait d'essayer de développer un petit peu ce comité pour en faire quelque chose, des tournois, et puis aller chercher un peu dans les autres ligues aussi, tourner un petit peu.
Donc si on comprend bien, il y a cette idée quand même de changer un peu de dimension pour créer beaucoup plus d'événements et faire vivre de manière beaucoup plus grande le baseball autour d'Angers.
Voilà, c'est essayer d'avoir un petit peu de rayonnement au niveau départemental. Mine de rien, ça permet aussi peut-être d'avoir des subventions par le département. Et donc ça aussi, c'est ce qui fait vivre nos clubs finalement. Donc il y a une ligue, Pays de la Loire, donc aussi on en fait partie bien sûr, qui essaie de développer aussi au niveau de toute la région. Mais l'idée, c'est comme nous on a trois clubs, c'est de fédérer au niveau du département et peut-être voire même extra-régional, sortir un peu toujours du même cadre. Puisque dans notre championnat, on joue toujours un peu contre les mêmes équipes. Et donc, c'est sympa, on s'entend tous très bien. Mais l'idée, c'est d'aller voir aussi un peu plus loin, peut-être, via ce comité.
Edouard parle de subventions, il est important de rappeler, on le fait à chaque fois qu'on reçoit un club au sein de l'émission, que si par chance il y a un mécène qui écoute quelque part donc la radio au sein du département, qui n'hésite pas, ou même un particulier qui a envie de faire un don à des clubs de sport amateur, qui n'hésite pas à le faire, c'est important. Quand on voit aussi malheureusement c'est dans l'actualité, les coupes budgétaires qui ont été faites suite après à l'après JO dans certaines disciplines et dans certains sports, on se doute que forcément le baseball, ça va réduire aussi la voilure. Et donc il est important que ces sponsors, que des entreprises qui ont envie d'investir dans le sport, le fassent pour permettre aussi à ces sports-là et à ces clubs-là de vivre et de parfois même de survivre, mais aussi de vivre de leur passion et de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus connus. Voilà, c'est important de le dire et de répéter à chaque fois qu'on reçoit les clubs.
On te remercie de le répéter du coup, parce que c'est vrai que c'est important.
Ah non, mais c'est vrai que là, on parle du prix d'une machine à balles qui coûte 3000 euros. Je veux dire, quand on a 35 licenciés, c'est pas forcément comme ça qu'on va pouvoir la financer. Et c'est vrai que s'il y a une entreprise qui a envie de mettre un peu d'argent, surtout qu'en plus, on va pas se mentir, c'est défiscalisé pour les particuliers ou les entreprises. Donc, ils n'hésitent pas à y aller, parce que 3000 euros pour une entreprise, parfois, je vais pas dire que c'est rien, mais bon, ça peut servir à quelque chose et ça peut permettre aussi au club d'avoir des projets, de continuer à être pérenne.
Clairement.
Tout à fait. Et si je peux rebondir là-dessus, du coup, nous, on a essayé aussi cette année de chercher d'autres sources de financement. Donc, il y a les subventions, c'est une chose, mais on a développé aussi l'attrait terrain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de buvette, de restauration. Et donc, maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir juste regarder, pas forcément jouer au baseball, eh bien, quand on joue à la géométrie, ils peuvent boire un petit coca, manger un petit sandwich. Et donc, là-dessus, on a aussi des partenaires qui nous ont aidés à acheter du matériel. Donc, ça, c'est très sympa de leur part. Et du coup, c'est aussi la volonté. Quand j'ai pris la présidence, c'était l'année dernière, c'était d'essayer de développer un peu l'aspect convivial, parce que souvent les gens, ils passaient, ils voyaient des gens taper dans une batte, mais ils comprenaient pas trop ce qui se passait, puis ils filaient leur chemin. Aujourd'hui, qu'il y a la buvette, les gens s'arrêtent, ils boivent un café, ils posent des questions sur les règles, et on voit qu'il y a quand même une certaine émulation autour du baseball. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de développer.
Et puis clairement, ça fonctionne, parce que depuis que tu dynamises un peu les abords du terrain au club, on n'a jamais eu autant de personnes finalement autour qui regardent le sport quand on le pratique sur le terrain. Donc c'est vraiment des résultats qui sont visibles. Et j'invite les gens juste à venir voir finalement par curiosité, puisque finalement c'est un sport qu'on veut américain. On est en France, c'est loin là, les Amériques. C'est juste à côté, c'est à Saint-Barth. Là, vous avez un petit bout de ça juste là. Si vous êtes curieux, faut juste venir voir et puis. Passage, on prend un verre à la buvette, quoi.
Même la tenue, en fait, Edouard est venu avec donc la veste donc du club, mais aussi je vois il y a le maillot aussi juste en dessous, donc et je pense que ça peut aussi comment permettre aussi, tu le disais aussi, de s'imaginer un peu dans un coin des États-Unis à Saint-Barthélemy, rien qu'à voir avec la tenue et l'ensemble donc. Un joueur de baseball, c'est vrai.
Vraiment... Puis, maintenant, on essaie de mettre cette ambiance un petit peu plus américaine, cette ambiance un peu plus familiale où on peut se poser, on peut venir, on peut regarder, discuter avec des amis en regardant un peu le baseball. C'est ce qu'on cherche, en tout cas, c'est ce que tu cherches avec ton projet pour les Eagles à mettre en place. Et c'est vrai que ça fonctionne. Et c'est aussi ça le baseball. C'est ce que je te disais aussi en off. Moi, je suis canadien, je viens un peu d'une terre où le baseball, on aime bien ça. C'est pas simplement un sport, c'est une fête, c'est le barbecue sur le parking du stade avant d'aller voir le match. C'est le match qui se joue pendant que tu vas avec les enfants profiter d'une animation ou deux que le stade te met à disposition. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans un stade de baseball pendant que le match joue finalement. Donc ça, c'est quelque chose moi j'apprécie de voir un petit peu plus ça ici, d'avoir. Plus de gens qui nous regardent finalement. On joue aussi pour le public, c'est intéressant.
Et d'ailleurs, je crois que vous allez lancer une chaîne Twitch là avec Radio G là sur votre émission. Il se trouve que nous aussi on a d'autres chaînes Twitch pour diffuser les matchs. Donc en fait, quand on le peut, quand il fait beau, parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de vent, etc. Mais on a quelqu'un qui est beaucoup sur cette chaîne là et du coup qui diffuse les matchs. Donc pour les gens qui peuvent pas se déplacer, ils peuvent regarder à l'écran et c'est assez télégénique. Donc ça aussi c'est un truc qu'on a développé un peu avec un des licenciés là que je remercie, hein, Florian, merci à toi pour sa chaîne.
On pourra la mettre sur nos réseaux à la fin de l'émission.
Complètement, ouais, avec plaisir.
Pour aller regarder les matchs sur Twitch. C'est à quelle récurrence les matchs?
Alors ça commence au mois de mars et du coup on a un match à peu près tous les 3 semaines au stade de la Géométrie.
Ok.
Après, on n'a pas encore réussi à externaliser nos diffusions parce qu'il faut quand même une petite connexion Internet, il faut un trépied, il faut un peu de matos. On galère déjà un petit peu avec notre petit matériel chez nous, donc pour l'instant on n'est pas encore équipé pour aller plus loin, mais ça fait partie des projets aussi.
Il y a peut-être un tournoi que vous avez diffusé aussi, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir nous le dire, celui donc c'était le 6 et le 7 octobre, si je dis pas de bêtises, donc dans votre stade également. Parlez-nous de cette envie de réunir le local et le régional, donc là je crois qu'on avait 7 clubs qui étaient présents pour justement jouer dans vos stades à la Gémétrie.
Ouais, donc en fait, ça c'est le tournoi des Pays de la Loire qui est organisé tous les ans, et cette année on l'a organisé effectivement, donc il y a 6 clubs, et comme au final il y a des ententes, il y avait que 4 équipes cette année, mais aussi parce qu'on n'a qu'un terrain, et niveau planning avec un seul terrain, c'est compliqué de faire tenir beaucoup de matchs. Là on a quand même fait 10 matchs, donc avec une finale le dimanche. Alors malheureusement le temps a pas vraiment été avec nous, parce que on avait prévu un peu aussi un show à l'américaine avec les cheerleaders, avec des choses un peu comme ça, et au final on a un peu abandonné parce que ça aurait pas été viable avec le temps qu'il faisait, mais on a ce genre de projet effectivement de réunir les clubs et de faire un peu plus que juste du baseball, faire un peu autour. Donc on a aussi cette année accueilli le All-Star Game. Donc pour ceux qui sont fans de sport US, hein, vous connaissez le principe, hein, on réunit les meilleurs joueurs de la région et puis on les fait s'affronter. Et c'est vrai que là, ça permet aussi à certains joueurs qui des fois ne s'y retrouvent pas au championnat parce que c'est un championnat régional 1, des fois il y a des gens qui ont un niveau peut-être supérieur, de faire des vrais matchs, des vraies rencontres avec du bon niveau. Donc là aussi, on a eu quelques spectateurs. Et on va alors cette année peut-être qu'on pourra pas le réorganiser parce que ça tourne autour des clubs, mais on va essayer de faire aussi peut-être un événement de ce type cette année, quoi. Voilà, on essaiera de communiquer dessus un peu mieux. C'est un peu notre point faible aussi, c'est la communication. On est un peu sur les réseaux sociaux, on est un peu sur les courriers de l'Ouest, Ouest France, mais de manière un peu épisodique, un peu éparpillée. Donc là aussi on essaie de se dimensionner pour que ce soit un peu plus carré.
Et bon, au mois de mars on parlera des résultats des Eagles de Saint-Barthélemy dans l'émission.
On parle
bien de beaucoup de disciplines dans l'émission. Quand il y aura un match des Eagles, on en parlera forcément ici.
On vous enverra un petit texto.
Exactement.
Ah ouais, je voulais vous poser une question, parce que le baseball, c'est un sport, en tout cas je pense, pour les Français, qui a un rapport à la fiction qui est très très fort. Moi, c'est ce que j'ai dit en préambule, j'avais envie de vous questionner par rapport à ça, par rapport aux nombreux films qu'on a pu voir. Je pense directement à Le Stratège, donc avec Brad Pitt, qui est peut-être le film le plus connu, mais est-ce que ça, vous le voyez directement sur le terrain, des personnes qui vous disent, voilà, moi j'ai consommé ce film, j'ai lu ce roman aussi, parce qu'il y a un roman qui est très connu aux États-Unis sur le baseball. Est-ce qu'il y a cette notion de fiction en France qui marche beaucoup concernant le baseball?
Écoute, je sais pas, c'est vrai que le peu de fois où on me parle de la fiction ou du fictionnel de baseball, c'est effectivement en référence avec le film dont tu as parlé.
Ouais, Le Stratège.
Le Stratège, exact.
Ça,
c'est vrai, quand c'est sorti, j'ai pu entendre parler de la bouche de certaines personnes en France qui n'avaient aucun rapport avec le baseball, en parler via le film finalement, à travers le film. Comme on a parlé aussi un petit peu avec Florian en off, le film, ça permet surtout de voir le fonctionnement d'un sport. C'est sur le baseball, c'est vrai que mais c'est pas le thème du film. Si tu regardes bien le film, au final, c'est que oui, le baseball est finalement un prétexte pour t'expliquer les coulisses de ce qu'il peut y avoir derrière une grosse machine à argent et à public. Et c'est, je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. C'est que le thème était pas, le premier abord était pas le baseball, c'était le prétexte, le baseball. Du coup, c'est comme ça qu'en France, on arrive à le mettre en place. C'est que c'est un prétexte, c'est là, c'est dans l'atmosphère. Il suffit juste de s'y intéresser, en fait. Ce genre de film donne de la visibilité au sport. Si ça peut amener du monde, moi je dis, c'est une bonne chose de toute façon, tu vois. Mais ça a fait jaser du monde, effectivement, autour de moi, qui n'avait pas forcément de lien avec le baseball. T'as raison de dire.
Et d'ailleurs, dans Le Stratège, il y a beaucoup l'aspect statistique du baseball qu'on retrouve. Et c'est vrai que dans les amateurs vraiment de baseball, c'est quelque chose dont on parle assez souvent, les statistiques individuelles, même si, comme vous l'avez dit en début d'émission, le baseball, ça reste quand même un sport collectif et tout seul, on peut pas faire grand-chose. Et donc, les statistiques, ils doivent être au service, effectivement, du collectif. Mais c'est vrai qu'entre nous, on aime bien regarder combien on a lancé de strikes, combien on a frappé de balles, la moyenne, etc. Et c'est vrai qu'on dit souvent aussi que le baseball, c'est un sport d'échecs, dans le sens où quand on frappe la balle, on a vraiment du mal des fois à se dire, mince, j'ai raté, je suis nul, etc. Alors qu'au final, quand on regarde les professionnels, ils tapent une balle sur trois, et ça, c'est les meilleurs. Sinon, bah, ils rentrent dans le dugout sans avoir frappé de balle. Donc, c'est aussi ça qu'on apprend aux jeunes, c'est d'accepter que des fois, bah, on n'a pas frappé, mais c'est pas parce qu'on a été mauvais, c'est parce que le lanceur, bah, il a peut-être très bien lancé, et lui, il a fait aussi sa partie. Et donc, c'est ce qui m'a fait venir au baseball, c'est vraiment la dualité entre le lanceur et le frappeur. C'est vraiment l'aspect qui me plaît au baseball, c'est ses stratégies. Parce que quand on regarde comme ça la télé, on voit un gars lancer une balle dans un petit carré, mais en réalité, le lanceur, il essaye de faire des effets, il essaye de mettre les balles au bon endroit, et le frappeur, lui, s'il a bien travaillé, il a appris ça, il sait ce que va faire un peu le lanceur. Donc c'est vraiment une stratégie un peu comme les échecs, où on fait des paris sur qu'est-ce qu'il va lancer, comment il va la lancer, et puis moi qui suis lanceur, c'est vraiment ce que j'aime au baseball, c'est ce qui me fait vibrer quand je joue, quoi.
C'est de mettre en échec l'adversaire, en fait.
Bah, essayer de le tromper, c'est-à-dire lui envoyer une balle où il a l'impression qu'elle va venir directement sur lui, et au dernier moment, à faire un petit effet parce qu'on a tourné la balle. Et donc, ça, c'est vraiment un aspect vraiment intéressant du jeu.
On rappelle que les lanceurs lancent à plus de, enfin, en tout cas, en MLB, à plus de 160 km/h, je crois, de mémoire.
C'est ça, c'est, ouais, ils parlent en miles par heure, donc c'est ça, c'est un peu plus, c'est 100 miles par heure qui correspond à 160 km/h.
D'où les. C'est énorme.
Les joueurs élites du championnat, ils lancent peut-être à 130, 120 km/h.
Mais c'est déjà énorme.
Oui. Moi, je fais pas ça, moi.
Ça me fait rire quand on entend ça, parce qu'en fait, j'en fais le parallèle avec moi au hand. Quand on est sur un tir à l'aile, en fait, on est en duel 100% avec le gardien. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose que ce duel entre le lanceur et le. Faut tirer dans la cible. En face, on a la personne. Faut essayer de le tromper. Faut jouer avec. Et en fait, moi, je fais un parallèle énorme entre ce que tu dis juste là sur ce duel et le duel que on vit nous au hand en étant à l'aile surtout. Sur d'autres postes un peu moins, on a souvent un défenseur aussi entre. Mais à l'aile, c'est vraiment 100% duel joueur-gardien. Et je vois vraiment ça comme ce duel-là, en fait, où il faut, bah, taper dans la balle et l'autre essayer que, bah, qu'il la tape pas, quoi.
C'est un peu comme les auditeurs qui aiment bien le foot, le penalty au foot, quoi. Il y a vraiment la dualité, pareil, ouais, c'est ça.
Oui, j'aime bien rebondir sur ce que tu disais, sur même les meilleurs, on va avoir du mal à toucher une balle quand elle est lancée, et tu parlais de statistiques, de sport à statistiques. Les sports américains sont généralement des sports où il y a énormément de statistiques. Oui. Il n'y a pas énormément de sports, par contre, qui, dans ces statistiques, incluent l'erreur et la cadre. L'erreur au baseball est une statistique, et si tu es joueur au baseball, tu es obligé d'accepter l'erreur, puisqu'elle... C'est le baseball qui te le dit, qu'il y en a dedans. C'est le corpus de règles. On les compte tellement c'est ça fait partie du jeu, si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de sports où on compte tes erreurs et où on les cadre. On te dit ça, on sait que c'est une erreur. Et c'en est une, on la compte, si tu veux.
Est-ce que c'est l'une des raisons, du coup, pour que ce sport-là, en fait, on n'arrive pas à le développer, en Europe, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore, dans les sports européens, en tout cas, qui sont très populaires en Europe, il n'y a pas cette notion de mettre en avant l'erreur ou de vouloir vraiment mettre en échec l'adversaire à un tel point, à un tel degré, on va dire. Parce que, certes, dans l'objectif est forcément de gagner, donc de mettre en échec l'adversaire, mais pas à ce point-là.
Ouais, en fait, il y a aussi le, pour rejoindre ça, c'est un peu le parallèle attaque-défense. Il y a beaucoup de sports où on voit, c'est l'attaque qui fait gagner finalement une équipe. Alors qu'au fait, au baseball, c'est beaucoup la défense qui fait qu'on va pouvoir gagner un match. Et mettre en échec, c'est aussi pouvoir éliminer les attaquants. Et donc, moi, je sais que quand je joue au basket, j'aimais beaucoup marquer des paniers. La défense, ça m'intéressait un peu moins. Et maintenant que je suis au baseball, c'est vraiment la défense qui m'intéresse le plus. Et l'attaque, bon, j'aimerais bien un jour mettre un home run. C'est ce qui clôturerait sûrement ma carrière. Mais mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a ce jeu de dualité, de mise en échec des autres, qui est peut-être pas une culture française. Et peut-être que l'autre frein, parce que je l'avais pas dit tout à l'heure, c'est peut-être le nombre de joueurs qu'il faut pour jouer au baseball, c'est qu'il faut être 9 contre 9. Donc c'est pour ça qu'il y a des structures à 5 contre 5 qui se mettent en place pour faciliter le jeu un peu partout. Et ben, c'est vrai qu'après, il faut une balle, il faut des battes. Mais tu parlais tout à l'heure de l'Amérique latine où c'est beaucoup développé. Les mecs, souvent, ils jouent dans la rue avec un bout de bois et puis un rouleau de scotch et ça marche très bien. Nous, si on prend un bout de bois, un rouleau de scotch et qu'on se met dans la rue à jouer, on va nous regarder bizarrement. Donc c'est aussi pour ça que peut-être c'est moins bien développé.
Il y a des gyrophares qui vont arriver, quoi. Donc.
C'est possible. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit d'avoir notre batte de baseball dans les voitures si on n'a pas notre licence avec nous. On pourrait se faire arrêter, effectivement.
Considéré comme une arme si t'as pas la licence.
Alors que, toi, au Canada, quand t'étais plus jeune, c'était...
Si ça se trouve, c'est le cas, j'en ai absolument aucune idée. Mais si tu veux, par contre, on se baladait avec nos battes comme partout, dans le coffre. Puis on se posait pas la question de savoir si c'était autre chose que pour faire du sport. Donc... Je ne sais pas, je pourrais pas te dire. Mais c'est vrai qu'en France, la batte était considérée comme une arme, et si t'es pas licencié,
tu peux avoir une, j'imagine, une amende.
Pour ne rien cacher à nos auditeurs, pour préparer aussi cette émission, on s'est rencontrés, Ludovic et moi, donc la semaine dernière. Tu parlais d'une contrainte de temps aussi.
Ah oui, effectivement.
De voir aussi pourquoi ce sport n'arrive pas à se positionner aussi en Europe. C'est qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un match qui dure dans le temps.
Oui, j'ai envie de... Là, je pense que c'est simplement une histoire de culture. C'est vrai que les sports européens ont cette culture de l'horloge. On a un match, il y a une horloge, il y a un temps, c'est pris en compte. Au baseball, il n'y a pas de temps, il y a un nombre de manches à jouer. Ça prendra le temps que ça prendra. On jouera les 9 manches. C'est pour ça que les matchs durent 4 heures et c'est pour ça qu'on n'est pas pendant 4 heures à regarder le match non-stop parce qu'il ne se passe pas 4 heures de baseball. Le sport, il est découpé en manches. Donc on sera là jusqu'à la 9e manche.
Même aux États-Unis, là, cette année, enfin l'année dernière, ils ont changé un peu les règles pour accélérer les matchs parce que justement les spectateurs commençaient à bouder un peu la MLB parce que ça durait trop longtemps. Donc aujourd'hui, les lanceurs, ils ont un timing à faire et ça a changé aussi beaucoup le jeu aux États-Unis. Donc eux aussi, ils prennent conscience de ça qu'il faut quand même donner un peu un cadre, alors même s'il n'y a pas un temps limité, mais essayer de dynamiser le jeu, quoi.
Ah mais c'est marrant parce que on a quand même aussi, on retrouve ça en Europe. Alors je vais grossir les traits aussi, hein. Mais on a le tennis qui est très long. On a une balle, on tape dans la balle. On a cette dualité aussi. Voilà, comment est-ce que vous expliquez ça, cette différence? Est-ce qu'on est purement là aussi sur de l'historique?
Ah, peut-être, je sais pas personnellement. Je pense qu'effectivement le tennis a probablement culturellement une histoire plus chargée, plus lourde en France que le baseball. Oui, j'ai pas vérifié moi mon info. Je sais qu'un livre décrit un petit peu les raisons pour lesquelles le baseball a du mal à prendre en Europe et particulièrement en France. Il y a des raisons comme ça, le temps, l'appréhension, la manière dont tu vois le sport finalement, hein, et la façon dont toi, en tant que spectateur, tu as envie de vivre l'expérience de regarder un match, de choses différentes. Un sport comme le baseball est un sport lent, où il y a effectivement peu d'action. Si t'attends de l'action, il va peut-être falloir mieux regarder un match où il y a de l'action finalement.
Mais quand il y en a, c'est de la belle action.
Mais quand il y en a, il vaut mieux que tu sois là à le regarder. Évidemment, c'est ça. C'est que le baseball va juste te dire à quel moment il y a de l'action et à quel moment il n'y en a pas. Ça, c'est pas toi qui le choisis, c'est le baseball. Si t'es attentif, tu vas être là pour regarder l'action au moment où elle se fait, si tu veux. C'est comme ça que ça va se passer.
Est-ce que alors je sais que en basket ça se fait, en NFL ça se fait, je crois qu'en hockey ça se fait aussi. Je ne sais pas si sur le network de la MLB du coup il y a ce genre de choses. Maintenant en fait on peut regarder les matchs un peu en condensé, donc c'est-à-dire que sans les arrêts de jeu, le basket ça se fait de plus en plus et je sais que en NBA sur le network ça marche enfin du feu de dieu. Est-ce que sur si on veut suivre un match de MLB ou on s'abonne au network, est-ce qu'on a ce genre de choses là? Je sais pas si vous êtes au courant ou pas.
Donc il y a le League Pass, hein, comme le League Pass NBA, il y a le League Pass MLB. Et effectivement, on peut sélectionner soit le match complet, soit le condensé. On peut même sélectionner les manches. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut pour regarder clairement du baseball. Et après, c'est diffusé un peu sur beIN Sports où là aussi, souvent ils ont un cadre de 2 heures de temps et ils font en sorte de mettre les meilleures actions et ils coupent les moments un peu longs. Et donc, sauf si le match bien sûr est en direct, mais quand ils font les rediffs, ils vont couper les séquences. Ouais. Donc effectivement, il y a cette possibilité de voir soit des résumés, soit les highlights, comme tous les sports. Ouais.
Donc il n'y a plus aucune raison pour nos auditeurs de ne pas forcément, en tout cas, suivre le baseball, ou en tout cas, il y a même pas aucune raison, parce que du coup, il y a un club à côté. Enfin, il y en a plusieurs dans le département, mais il y a notamment celui des Eagles de Saint-Barthélemy.
Et il y a des événements.
Et il y a des événements en plus à venir. Et donc, on est ravis de les avoir eu dans l'émission ce soir. On va se quitter là-dessus. On va attendre une dernière question.
Ouais, moi j'avais une petite dernière question pour donner encore plus envie à nos auditeurs. Mais aujourd'hui, quand on parle des Eagles de Saint-Barthélemy, c'est quoi l'adjectif? C'est quoi le sentiment qui prédomine?
Normalement, ça doit être le fun. Donc l'idée, c'est on vient pour s'amuser, on vient pas pour se prendre la tête. Hein. Et comme je disais, hein, que ce soit n'importe quel niveau que vous ayez, il y a pas longtemps, il y a une personne qui avait 75 ans qui jouait encore de temps en temps. Alors il faisait pas forcément le championnat, mais il était capable de lancer une balle, de frapper. Donc c'est vraiment le fun et venir s'amuser. C'est ça qu'on essaie de développer en tout cas chez nous.
Et moi, j'ai peut-être une dernière question pour vous, c'est de savoir quand est-ce que vous venez essayer sur le terrain des Eagles, les gars.
J'allais en parler, j'allais venir parce que c'est vrai que c'est un entraînement qui est ouvert à tous, donc pourquoi pas venir un jour
avec grand plaisir
à son sport pour venir tester.
Vous venez chez?
Exactement.
On pourrait dire que vous aurez essayé.
On attend le retour du beau temps pour pouvoir jouer sur un terrain plus sympa, c'est ça, plus grand.
eh ben le rendez-vous est pris en tout cas aux alentours du mois de mars pour venir essayer du baseball donc au stade de la Géométrie.
C'est ça. À Saint-Barthélemy.
Avec tout l'attirail qui est en train de naître tout doucement pour amener un peu de gaieté autour du stade de la Géométrie et de faire en sorte que le baseball soit une fête en tout cas à chaque fois qu'il y a une rencontre du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou. Merci à vous d'avoir été dans l'émission en tout cas.
Merci à vous, c'est très gentil de nous avoir invités.
Et puis on se retrouve dans quelques instants, on va continuer, on reparlera sans doute un peu en off de tout ça. On va continuer, on va parler de handball avec toi Amaury, principalement aussi quand même parce que bah il y a une compétition actuellement qui se joue en Europe.
Et oui, il y avait le championnat d'Europe féminin de handball avec l'équipe de France qui a été vice-championne olympique à Paris cet été, et un premier tour sans accroc, ou presque, pour l'équipe de France, 3 sur 3, malgré seulement une mi-temps ratée face à l'Espagne, la première. Sinon, tout va bien. On a des gardiennes qui, du niveau Thierry Omeyer des grands soirs, les trois gardiennes, vu qu'en plus on a même pu faire tourner, elles ont toutes super bien réussi. Une défense qui les aide aussi grandement, une très très bonne défense qui permet aussi de marquer pas mal en contre-attaque. Donc, un super début de compétition. Peut-être un petit peu plus balbutiant en attaque placée face à des équipes qui normalement n'auraient pas dû nous inquiéter de ce point de vue-là, mais la défense était si intéressante que c'est passé. Maintenant, on passe au deuxième tour, une deuxième phase de poule. Donc au hand, c'est souvent comme ça, un premier tour, les deux premiers qui passent, et après il y a trois groupes qui se regroupent, donc ça fait six équipes. Et donc là, on raffronte pas celles qu'on a déjà affrontées, on affronte les autres. Donc dedans, on aura la Suède, on aura la Hongrie et deux autres équipes, normalement le Monténégro, mais ça joue en ce moment. Donc pour connaître les deux prochains adversaires aussi des Bleus.
Du costaud, du coup, parce que les Suédoises, voilà. Et les Hongroises, c'est quand même costaud.
Les Hongroises, en plus, c'est chez elles, donc ouais. ça va être quelque chose d'autre que la Pologne et le Portugal, par
Qu'est-ce
exemple.
Qu'est-ce qu'on peut espérer dans cette compétition, Amaury?
Le titre, j'ai envie de dire, est-ce que l'équipe de France de handball qui peut que viser le titre? Maintenant, on sait, on a des équipes, la Norvège qui nous a battu en finale, en finale au JO, c'est très fort, peut-être au-dessus de nous, mais sinon, je pense qu'on est au moins la deuxième meilleure équipe. Maintenant, faut faire face à ce statut et essayer d'aller au bout. On l'espère, en tout cas, on va pouvoir en parler sur les deux prochaines semaines à chaque fois, ce petit rendez-vous.
On rappelle aussi qu'il y aura la compétition masculine au début du mois de janvier. Hein, comme
exactement, d'avant. C'est toujours comme ça, les filles fin d'année, les garçons début d'année, et puis on vibre avec à ce rythme-là tous les ans.
Exactement, une dernière info avec toi, Marie.
Eh ben, on peut peut-être sur le Vendée Globe, où les skippers arrivent sur l'un des moments les plus critiques de ce tour du monde avec les mers du Sud. On enlève le maillot de bain et on remet les bottes, j'ai envie de dire, avec une dépression qui est la plus grosse depuis le début qui arrive. On a eu des chocs pour certains skippers ces derniers jours. On a vu une arcade cassée, on a vu une petite main ouverte sur les, qu'on vole un petit peu dans le bateau quand on tape des grosses vagues. Ça arrive. En tout cas, au classement, Charlie Dalin a récupéré sa place de leader. Ça va faire plaisir à Mathéo, on sait qu'il aime bien. Mais il compte que 30 miles d'avance, soit une cinquantaine de kilomètres sur Sébastien Simon, son dauphin. Et d'ailleurs, je voulais mettre un petit mot pour terminer sur le Vendée Globe. J'ai vu que pas mal de skippers avaient amené des balises avec eux, tout un tas d'outils scientifiques qui larguent en mer pour aider, pour comprendre les courants marins, pour le réchauffement climatique, pour connaître un petit peu les migrations de mammifères, etc. Et donc ça, je trouvais ça... ça en coûte un petit peu sur du poids sur le bateau au début. Je trouvais ça vachement intéressant, vachement bien, et fallait le mettre en avant parce que c'est beau, c'est dans l'esprit aussi.
Ouais, d'un point de vue écologique, c'est très très bien. Aussi.
Et donc du coup, voilà, je voulais mettre en avant parce que j'ai vu plusieurs skippers faire ça depuis le début, donc voilà, c'était quelque chose qui était important à mes yeux.
Bah, merci beaucoup Amaury pour ce point actuel international. Merci à toutes et à tous d'avoir pu écouter Génération Sport sur Radio G sur le 101.5. On se retrouve la semaine prochaine et n'hésitez pas, si vous êtes un sport qui fait de la sarbacane ou qui a envie de parler d'hippodrome ou quoi que ce soit, n'importe quelle discipline, vous venez dans Génération Sport et on parlera de vous dans l'émission. Ciao, ciao.